planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Copanado.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h. Lettre de M. Festugière sur l'importance et l'utilité de l'achèvement du canal latéral à la Garonne. À M. le rédacteur du Courrier de la Gironde, Paris, le 10 décembre 1850. Monsieur, il y a 8 mois environ, les représentants des départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, touchés des réclamations que faisaient entendre les conseils généraux de ces départements et les chambres de commerce de Bordeaux et de Toulouse firent une démarche auprès de M. le ministre des Travaux publics pour obtenir le prompt achèvement du canal latéral à la Garonne. M. Binot leur répondit que tout en reconnaissant très légitime leur doléance, il était impossible au gouvernement, dans l'état actuel des finances, d'augmenter les allocations portées au budget pour l'achèvement de cette voie de communication, mais que, si une compagnie sérieuse se présentait pour terminer ce grand ouvrage, il serait très disposé à la substituer à l'État, moyennant une concession de courte durée. Stimulé par d'honorables encouragements, par les résolutions et les vœux exprimés tant de fois par les organes légaux du département de la Gironde, je me suis mis en mesure de répondre à l'appel que M. le ministre des Travaux publics adressait à l'industrie privée. J'ai réussi à constituer une compagnie avec le concours de financiers haut placés dans la banque. Son capital, fixé à 12 millions, est prêt. Et j'ai déposé entre les mains de M. Binot une soumission pour terminer le canal latéral à la Garonne. Je n'ai nulle difficulté à livrer à l'appréciation du public les conditions de mon entreprise. Elles consistent à terminer en 2 ans à partir du jour de promulgation de la présente loi les travaux qui restent à faire entre Agen et Castex pour terminer le canal latéral à la Garonne. À soumettre mes plans et devis à l'appréciation du Conseil supérieur des ponts et chaussées, à déposer conformément à la demande que m'en a faite le ministre, pour garantie de la bonne exécution des travaux et de l'accomplissement de mes obligations, un cautionnement de 500 000 francs, au moment même de la présentation du projet de loi à l'Assemblée, et à doubler cette somme 8 jours après le vote de cette même loi. Enfin, à me soumettre à la perte de la portion non remboursée du cautionnement et aux conséquences d'une adjudication faite à une autre compagnie, si, dans le délai déterminé, je n'ai pas réussi à achever le canal. En retour de ces obligations, je demande au gouvernement, premièrement, la concession de toute la ligne de Castex à Toulouse pendant 25 ans, à partir de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, et deuxièmement, l'application sur cette voie d'un tarif de péage composé de 2 classes et dont le taux en moyenne, compris la descente et la remonte, ne dépasse pas 4 centimes par tonne et par kilomètre. Mon œuvre est sur le point d'aboutir, mais voici qu'il surgit une proposition non pas rivale, mais destructrice de la mienne, et qui s'oppose radicalement à la mise à exécution de mon projet. Un journal de Bordeaux a publié une note où se trouvent établies les conditions de cette nouvelle proposition. Cette note a pour titre « Possibilité d'établir immédiatement et sans frais pour l'État un chemin de fer de Bordeaux à Toulouse en utilisant les travaux faits pour l'établissement du canal latéral à la Garonne ». Ainsi, l'auteur de ce projet propose de combler le canal latéral pour y substituer un chemin de fer. En d'autres termes, il demande que le gouvernement, que les chambres, que les conseils généraux, les conseils municipaux qui, pendant 15 ans, ont pensé avec les populations riveraines que le canal latéral était le meilleur moyen de relier l'océan à la Méditerranée, de remplacer par un service régulier de navigation la navigation si incertaine, si périlleuse de la rivière, l'auteur demande, dis-je, qu'ils reconnaissent leur erreur, qu'ils abandonnent une entreprise près d'être terminée pour commencer une nouvelle opération. Des sommes énormes ont été dépensées, des expropriations ont été faites au nom de l'utilité publique sur un parcours de 204 km. Des travaux d'art gigantesques ont été exécutés à Moissac, à Agen, au Mas, à la descente en rivière de la Baïse, à Meillan. Pendant 12 années, les soins de l'administration et des ingénieurs ont été consacrés à cette œuvre considérable. Eh bien, il faut déclarer que tout cela a été fait en pure perte, qu'on a travaillé en aveugle, sans se rendre compte de ce qu'on faisait, qu'on a sottement enfoui dans la terre, remué ou jeté dans l'eau une valeur de 55 millions. En 1845, le gouvernement présenta aux chambres une demande de crédit extraordinaire pour continuer le canal latéral à la Garonne. Alors, cet ouvrage était loin d'être aussi avancé qu'aujourd'hui. C'était à peine si les travaux faits pouvaient assurer la navigation jusqu'à Agen. Dans la discussion, M. Muret posa cette question. Ne serait-il pas convenable d'abandonner le canal et de le remplacer dans son parcours par un chemin de fer en utilisant, pour cette nouvelle construction, les levées de terre du canal ? On le voit, c'était absolument la même proposition que celle qui est produite aujourd'hui, avec cette différence toutefois qu'à cette époque, on avait dépensé 10 à 12 millions de moins et que l'on était plus éloigné de l'entier achèvement de la ligne. Monsieur Dumont, ministre des Travaux publics, voulut se rendre compte des avantages et des inconvénients d'une pareille transformation. Il chargea des ingénieurs habiles de lui faire un rapport à ce sujet, afin non seulement de s'éclairer, mais aussi d'éclairer les chambres. Lorsqu'on a fait le canal, ou plutôt lorsqu'on a tracé la direction qu'il devait prendre, on s'est préoccupé d'une part des meilleures conditions de son établissement, d'autre part de la nature des transports auxquels il devait servir. En conséquence, on l'a établi autant que possible au-dessus de la plaine pour éviter les inondations de la Garonne et l'on ne s'est occupé que très subsidiairement de le rapprocher des centres de population, attendu qu'il était destiné bien plutôt au service des marchandises qu'à celui des voyageurs. Les marchandises, surtout celles qui ne sont pas d'un grand prix, par exemple les produits agricoles principalement, vont chercher la voie la plus économique. Les voyageurs, au contraire, demandent la voie la plus accélérée. Il en résulte que là où un canal est approprié aux besoins des localités, un chemin de fer ne l'est pas et vice-versa. Il ne viendra jamais à la pensée d'un ingénieur de proposer indifféremment le tracé pour l'une ou l'autre de ses voies, et c'est ce que l'auteur de la note fait sans le moindre scrupule. Mais son erreur frappera tous ceux qui voudront examiner comment se groupent les populations placées sur les deux rives de la Garonne. Sur la rive gauche, où passe le canal, on ne trouve qu'une ville de 1450 habitants jusqu'à Agen, tandis que sur la rive droite, on rencontre sept villes qui renferment une population totale de 21 000 âmes. On sait que les personnes qui y habitent les villes voyagent beaucoup plus que les gens de la campagne. Et l'on prétend avoir des capitalistes pour ouvrir un chemin de fer dans une pareille direction. Certainement, on se trompe. Tous ceux qui connaissent les localités sentiront facilement qu'on ne peut songer à déshériter les villes de Sainte-Marie, Aiguillon, Clairac, Tonnins, Marmande, Sainte-Bazeille et La Réole de leurs droits acquis par la possession de la route royale de Bordeaux à Toulouse, ce qui aurait lieu en faisant le chemin de fer au lieu et place du canal à partir d'Agen pour utiliser les 54 km exécutés sur cette rive. Ce serait une véritable injustice qui obligerait les habitants de ces villes à faire, pour gagner le chemin de fer, 5 à 6 km dans une plaine submersible, sans profit pour la rive gauche, où les populations sont clairsemées. Tracé sur la rive droite au contraire, le chemin de fer passera à proximité de toutes ces villes et sera en communication avec les vallées du Lot et de la Dordogne. À l'appui de ces observations, nous pouvons dire que les intéressés aux compagnies formées pour le chemin de fer de Bordeaux à Toulouse nous ont tous assuré qu'ils préféraient encore la rive droite entre Agen et l'Aréole, alors même qu'on leur donnerait gratuitement le canal sur la rive gauche pour établir leur chemin, même avec une concession, pour l'exploiter de 99 ans.
Vous écoutez Climat de lutte avec Sylvie Noni sur la Clé des Ondes.
Et Climat de lutte évoque aujourd'hui les questions de transport. On l'a entendu dans cet archive de 1850, les choix d'aménagement entre Bordeaux et Toulouse, où n'existait pas encore de voie ferrée, faisaient déjà débat. Le canal latéral avait été décidé en 1832 et les travaux confiés par l'État à l'ingénieur des ponts et chaussées Jean-Baptiste de Baudre, mais celui-ci est mort en 1850, justement sans voir l'achèvement de l'œuvre de sa vie. Dans l'argumentaire de M. Festugière, que vous pouvez lire aussi en ligne sur le site Gallica, je mettrai le lien, on discerne une réflexion déjà bien avancée sur les modalités de transport, pour le dire avec des mots du XXIe siècle. La Garonne, fleuve impétueux et au cours très irrégulier à l'époque, n'était pas navigable. La construction de ce canal latéral prévu pour transporter des marchandises bon marché, qui n'exige pas un transport rapide, a démarré en 1838 et s'est achevé finalement en 1856 par la jonction avec la Garonne à Castets. Ce chantier a nécessité la construction d'ouvrages d'art que l'on peut aujourd'hui encore admirer, comme le pont-canal à Agen, celui sur la Baïse à Bruches, jusqu'à l'écluse double de Castets qui permet de remplir le canal avec l'eau de la Garonne. Dans cette lettre de M. Festugière, on voit que ce qu'on appelle le désengagement de l'État ne date pas d'hier. Ce dernier n'hésitait pas à confier à une compagnie privée le soin des travaux d'intérêt général pourtant, moyennant des concessions de plusieurs dizaines d'années pendant lesquelles ces compagnies pouvaient prélever des péages. On voit aussi que ces compagnies privées sont prêtes à faire des propositions tout à fait déraisonnables pour les finances publiques, contraires aux intérêts des voyageurs et des citoyens, pour peu qu'elles y trouvent un intérêt financier, des arguments tout à fait capitalistes donc, comme le revendique M. Festugière. Toute ressemblance avec la situation actuelle n'est pas fortuite. Aujourd'hui, le débat s'est aggravé avec la crise climatique et les enjeux de la décarbonation de nos modes de transport. Cette question ne se posait pas au milieu du XIXe siècle, malgré le fait que tous les trains fonctionnaient au charbon. Et c'est bien à partir de 1850 que démarrent les graphiques que l'on voit partout aujourd'hui, montrant l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Revenons à Bordeaux-Toulouse. Aujourd'hui, il n'est plus question de choisir entre le train et le canal, mais de choisir entre le train et le train. Et là encore, des arguments économiques et écologiques sont avancés pour justifier la construction d'une ligne grande vitesse sur la rive gauche de la Garonne et au travers d'espaces naturels très précieux, comme la vallée du Siron, alors qu'il existe une voie de chemin de fer sur la rive droite. Un projet qui avait été désavoué par l'enquête publique pour des raisons écologiques et économiques, mais qui est ressorti des cartons malgré tout.
Je m'interroge quand même sur le sens d'un tel avis, dans la mesure où l'Aquitaine, malgré l'arrivée de la LGV à Bordeaux, va vivre sur des voies du 19e siècle.
Merci à nos amis de LGV Non Merci pour avoir débusqué cette petite archive sonore qui résonne si bien avec notre question du jour. Alain Rousset déplore que l'Aquitaine soit obligée de vivre sur des voies du 19e, ce qui ne dérange pas du tout d'ailleurs pour les lignes vétustes de la région, et ce qui peut s'arranger d'ailleurs parce qu'avec des travaux de rénovation loin de coûter 14 milliards, on doit pouvoir nettement améliorer la voie Toulouse-Bordeaux existante. J'en profite pour annoncer que le collectif d'associations qui se bat contre ce projet de LGV Bordeaux-Toulouse-Bordeaux-Dax prépare une énorme mobilisation appelée Freinage d'urgence les 11, 12 et 13 octobre. Ils organisent des réunions d'information tout le mois de septembre et début octobre pour répondre aux questions, présenter un peu l'état du projet, expliquer où en est la lutte, les dernières actualités, préciser les raisons de s'opposer à ce projet et pour présenter ce qu'est la coordination LGV non merci. La prochaine réunion sur Bordeaux aura lieu le mardi 17 septembre, notez bien la date, à 19h, Halle des Douves, 4 rue des Douves à Bordeaux, donc vous y êtes cordialement invités. Nous revenons maintenant à la question du transport par voie navigable, celle des canaux qui sont aujourd'hui victimes d'une démesure qui n'existait pas à l'époque de Jean-Baptiste de Baudre et encore moins à celle de Pierre-Paul Riquet, constructeur du canal du Midi 2 siècles auparavant. Nous avons rencontré cet été au village de l'eau qui se tenait dans les Deux-Sèvres entre le 16 et le 21 juillet une association au nom évocateur Méga Canal, non merci.
Nous sommes à Mel, à Saint-Martin-les-Mel, même exactement. Nous sommes sur le village des Luttes et nous sommes avec Loutre, qui est représentant de l'association du collectif Méga Canal, non merci. Non merci. Donc vous êtes complètement anti-écolo, puisque tout le monde sait qu'un canal c'est quelque chose de tout à fait écologique, ça permet d'économiser des camions, et vous vous battez contre le canal.
Oui, on lutte contre ce mensonge éhonté dont on nous rabat les oreilles maintenant depuis plusieurs années. Parce que le fluvial, oui, ça peut paraître propre, d'ailleurs on a même des bateliers au sein de notre collectif, mais clairement celui-là ne représente pas du tout la même chose. On n'est pas sur les mêmes infrastructures, on n'est pas sur les mêmes contraintes techniques, on n'est pas sur les mêmes besoins. Et de fait, ce canal n'a aucun sens écologique, économique et technique.
Alors il s'agit d'un canal de 107 km qui reliera quelle ville à quel endroit ?
Alors ce projet de canal Seine-Nord-Europe, puisque c'est son nom officiel, est censé relier la ville de Compiègne, à une heure de Paris, au sud des Hauts-de-France, à Aubencheul-au-Bac, qui est une petite ville qui se situe sur le canal de l'Escaut. Donc l'idée c'est de relier tout le bassin de canaux du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, jusque à terme vers Paris, puisqu'il y a le canal Seine-Nord-Europe qui est actuellement en projet. Et le projet suivant c'est le MAGEO, la mise au gabarit européen de l'Oise qui reliera donc Compiègne à Conflans-Sainte-Honorine à l'ouest de Paris et qui permettra donc d'alimenter depuis les ports du nord comme Anvers et Rotterdam, d'alimenter des entrepôts comme Green Dock.
Ah, tout se complète de façon harmonieuse dans ce monde capitaliste.
L'empire logistique dans toute sa splendeur, c'est les deux faces de ce même visage, d'un côté les flux et de l'autre le stockage.
Voilà. Et donc, regardez, là, il y a une carte exposée sur votre stand. Il y a des montagnes entre le point d'arrivée et le point de départ de ce canal. Il coule dans quel sens, hein ? Il monte et il descend ?
Alors, déjà, je pense qu'il y a un point à lever pour beaucoup de gens, c'est qu'un canal, contrairement à une rivière ou un fleuve, ne coule pas. C'est une étendue d'eau statique. Et alors, on ne peut pas vraiment parler de montagne. Par contre, on franchit un plateau qui s'appelle le plateau Picard. Et toute la difficulté technique et le non-sens de ce canal, c'est effectivement d'être inter-bassin versant. C'est-à-dire, d'un côté, on a le bassin versant parisien et de l'autre côté, on est sur le nord de la France. Donc, il va y avoir énormément d'écluses à franchir, notamment une d'une quarantaine de mètres. C'est un record absolu en France. Et il y aura également la vallée de la Somme. La Somme étant un petit fleuve qui passe par Amiens et par Abbeville. Et là, du coup, ils ont prévu, c'est pas une blague, un pont. Mais un pont pour faire passer les bateaux au-dessus. Voilà. Alors, quand je parle de bateau, parce qu'on parle d'un canal de tout à l'heure, je voudrais bien être au clair avec les gens. On ne parle pas d'une petite péniche Fraissinet ou de l'image que vous avez du canal du Nord, du canal du Midi, pardon. Là, le canal Seine-Nord Europe, c'est le gabarit européen. Donc, c'est du gabarit 5B, 4400 tonnes utiles. Pour vous représenter, un porte-conteneur en gabarit 5B, c'est 4 conteneurs de large, 3 conteneurs de haut et 185 mètres de long. Voilà, donc imaginez que bah, pour franchir ça, on s'est dit que la bonne idée, c'était de faire un pont au-dessus d'une vallée pour faire passer les bateaux au-dessus. Voilà, l'intérêt du fait de ce pont, c'est vraiment ça, franchir, et c'est vendu comme dans les ERC, les éviter les compensations, voilà, c'est vendu comme un projet, comme une idée favorable qui permet d'éviter de la destruction de la vallée de la Somme, au détriment de milliers de tonnes de béton.
Et il y a eu une enquête publique sur ce projet ?
Il y a eu des enquêtes publiques, il y a eu des enquêtes environnementales. Bon, bien évidemment, il a été vendu comme projet d'utilité publique. Chacun son point de vue. Voilà. Maintenant, dernièrement, il a été divisé en plusieurs sections. On vient de finir les dernières enquêtes environnementales. Ils ont quelques réserves à lever, notamment sur les quantités d'eau disponibles. Je pense en outre à un point qui va soulever... beaucoup d'indignation chez les gens qui sont là ici. Le fonctionnement de ce canal nécessite une retenue d'eau de 14 millions de mètres cubes. J'ai bien dit 14 millions. Voilà. Si on compte le volume du canal, puisque c'est une retenue aussi, on est aux alentours des 30-35 millions de mètres cubes. Voilà. Et donc, il y a des réserves là-dessus, parce qu'ils se sont basés sur la sécheresse de 76, qui serait capable de supporter, mais de supporter une année. On sait très bien qu'à l'avenir, le changement climatique va nous en imposer plusieurs. Bon, pour la blague, je ne sais pas en fait si c'est drôle tellement que c'est tragique, mais la réponse qu'ils ont donnée, c'est de se dire qu'il faudrait peut-être construire une deuxième bassine à côté pour régler le problème. On va mettre une deuxième bassine, mais il n'y a pas plus d'eau qui coule au tuyau. Voilà, tout ce projet est tragico-comique comme ça, c'est juste effarant sur l'ensemble des moyens mis en œuvre, des solutions apportées et des volumes. Voilà, si je peux me permettre de parler deux minutes des volumes pour que tout le monde visualise bien un peu ce projet. En volume d'eau, ils nous ont annoncé en perte que c'est un canal économe en eau. Je reprends les mots de M. Biel, directeur de la société du canal Seine-Nord Europe. C'est un projet économe en eau parce qu'il ne fait que 600 litres seconde de fuite en perte et évaporation. Alors on pourrait croire que c'est pas beaucoup, mais quand on le ramène à l'année, c'est 18 millions de mètres cubes en perte. Bon, en perte. Et c'est la consommation annuelle d'une ville comme Lille. Voilà. On peut parler des volumes de matériaux déplacés. C'est 78 millions de tonnes. C'est plus que le Lyon-Turin, c'est plus que le tunnel sous la Manche, c'est deux fois le Grand Paris. Voilà, on est sur des échelles aussi dingues que ça, sur quoi que ce soit. L'électricité, le fonctionnement des écluses et des pompes, c'est l'équivalent d'une ville de 30 000 habitants. Enfin, voilà, tout est démesuré sur ce canal et même les prévisions de croissance sur lesquelles il se base pour le justifier, c'est 1,6% de PIB en plus tous les ans pendant 50 ans. Enfin, on l'a jamais vu. Tout est sur une base de mensonges éhontés et de greenwashing comme ça.
Mais alors, qui porte cette idée, cette société Grand Canal ? C'est une société d'économie mixte ? C'est une société privée ?
Alors, le projet est avant tout porté par une personne, et je vais faire du name and shame directement, c'est Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Voilà. C'est lui qui a remis ce projet sur les roues. C'est une Arlésienne dans les Hauts-de-France. On entend parler de ce projet depuis plus de 30 ans. Mais là, depuis quelques années, il a remis ça en place. Et enfin, c'est sa pyramide du Louvre à lui. Voilà. C'est son méga projet. C'est son côté mégalo. C'est lui qui l'a remis sur le tapis. Avec le soutien de quelques politiques. Je pense par exemple à Édouard Philippe, qui était le maire du Havre. Quand il était maire du Havre, il était tout à fait contre. Depuis qu'il est passé Premier ministre, il est tout à fait pour. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce canal va mettre en concurrence les dockers du Havre avec les dockers d'Anvers et de Rotterdam, puisque le but, c'est de relier Paris à chaque fois.
D'accord. Et combien il coûte ce projet et qui le paye, qui le finance ?
Alors combien il coûte et c'est une bonne question. Alors les derniers éléments, on est passé il y a quelques mois d'un projet qui était estimé à 5 milliards, dont il manquait pas loin de 400 millions de financement, à un projet à 8 milliards. Donc là pour le moment, on n'a toujours pas de financement. Il ne faut pas perdre de vue que le choix de ce gabarit, il a une raison. C'est que c'est le gabarit minimum pour qu'on puisse avoir les subventions européennes. Voilà, il y a toujours une histoire derrière à comprendre. Donc l'UE, pour le moment, paye une grosse partie. Après, là où qui paye, il y a encore un gros problème à soulever, c'est que L'un des éléments justifiant ce canal, c'est d'avoir des ports fluviaux intermédiaires, notamment pour exporter des céréales. Et c'est pas compris dans les 8 milliards, en fait. C'est aux collectivités locales, déjà certainement, d'assurer la fin des 8 milliards et aussi de payer leurs ports. Donc ça, pour le moment, ça peut être drôle aussi, même si c'est tragique. Même le député RN qui a été élu dans la dernière circonscription en question était très sceptique sur la réalité du projet. Voilà. Donc le financement, pour le moment, il n'y en a pas, hein, en fait. Ouais.
On écoute une archive sonore d'un autre genre.
Quand on est un canal, on coupe la campagne en deux plaines étalées, entre manches et champagne, et tous les peupliers nous font des d'honneur à nous voir aller droit mieux que des arpenteurs. Et l'on sait les secrets des agents frémissants quand ils courbent la tête en prière devant. On reflète dans l'onde les corps imaginaires des nuages repus qui courent vers la mer. Quand on est un canal, on s'arrête aux écluses pour entendre gueuler les marins qui s'amusent. Et les filles en valsant ont de ces rires de gorge qui font tomber les hommes plus rouges que des forges. Et le lendemain matin, on porte sur le dos leurs péniches alourdies de souvenirs nouveaux. Quand on est un canal, on salue au passage les belles valkyries du bout du paysage. Mais quand on est un homme né de ce pays-là, au canal de la Somme, on va rêver parfois. Mais quand on est un homme, comme je le suis moi, au canal de la Somme, on n'abandonne pas.
C'était « Quand on est un canal », une chanson écrite et chantée par Pierre Bachelet, un chanteur que les moins de 40 ans ne connaissent sans doute pas. Une chanson aux paroles quelque peu masculinistes qui ont mal vieilli, mais qui évoque entre manches et champagne le sujet du jour, ce méga canal Seine-Nord-Europe. Ce projet pharaonesque, porté par le président de région Xavier Bertrand, avec autant de ferveur qu'Alain Rousset porte le GPSO, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, les deux prétendent que ce sont des alternatives au transport routier pour l'un et à l'avion pour l'autre. Là encore, cela mérite d'être examiné de près. On écoute l'outre du collectif Méga Canal. Non merci.
Alors ils ont chiffré, pour faire miroiter le projet, ils ont chiffré ça en camions économisés, mais ils font en même temps un couloir pour faire une circulation accélérée des marchandises.
Oui, et... alors il y a un élément mensonger déjà de base sur la quantité de camions, c'est que ils nous vendent le projet comme étant écolo parce qu'il économiserait des camions sur l'autoroute A1, qui est l'autoroute la plus empruntée de France. On économiserait 1 million de camions par an. Dit comme ça, ça peut faire chouette. Bon, déjà, 1 million de camions sur l'autoroute A1, on a compté, c'est seulement 1 sur 18. Je ne suis pas sûr, quand on s'imagine sur l'autoroute, que ça change grand-chose, mais c'est surtout 1 million de camions en moins sur les 6 millions prévus en plus par l'Union européenne d'ici la fin des travaux. Donc, en fait, le canal n'économiserait que 1 million, au sens qu'au lieu d'en avoir 6, on en aurait 5 en plus. Voilà. Sans compter qu'effectivement, il y aura forcément, puisqu'ils veulent un développement d'infrastructures, logiquement, il y aura forcément un développement des camions à côté.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'inscrit complètement dans une accélération de la circulation des marchandises à l'échelle planétaire même, pas seulement à l'échelle européenne, alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire et arrêter ces entrepôts de logistique qui alimentent la machine à surconsommer. et arrêter cette gabegie en termes de déplacement, en termes d'importation d'objets inutiles d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Le but de ce canal, il est double. Dans un sens, il est à l'exportation. Donc on est, je repense à M. Attal qui nous dit qu'il faut assurer notre sécurité alimentaire quand on exporte 46% de notre blé, ça me choque toujours. L'idée, c'est d'exporter énormément de céréales. Les Hauts-de-France sont une terre agricole très riche, dont on va en enlever 3 300 hectares avec ce canal. Et de fait, là, voilà, l'idée, c'est d'exporter des céréales et de l'autre côté, d'importer des produits manufacturés. Et voilà, dans les deux cas, c'est de la mondialisation, des choses qui vont voyager à l'autre bout du monde, alors qu'on peut très bien garder nos céréales pour nous éventuellement ou faire autre chose à la place. Et puis voilà, c'est tout l'inverse de la décroissance, c'est de la mondialisation à outrance.
Oui, et tous les débats que l'on a ici sur le village de l'eau, sur les choses à changer radicalement pour pouvoir préserver la ressource en eau, c'est l'idée de, à l'échelle de chaque bassin versant, construire une autonomie interne à chaque bassin versant pour restaurer son eau, etc. Et là, ces projets d'infrastructure mélangent l'eau de plusieurs bassins versants avec des coûts énergétiques complètement dingues. Voilà, et c'est exactement l'inverse.
Oui, et ça crée même encore une fois une certaine concurrence, puisqu'on a notamment la FDSEA de la Somme, donc qui sont concernés par le haut du canal, qui se revendiquent comme étant pour le canal Seine-Nord Europe, parce qu'ils espèrent en tirer une possibilité d'irrigation. Alors, c'est pas prévu pour le moment au projet, mais c'est leur espoir. Et de fait, le point de captage, lui, par contre, est dans l'Oise, sur l'eau de bassin versant, et donc, clairement, l'idée, c'est de spolier l'eau des agriculteurs de l'Oise.
D'accord.
Voilà, tout est comme ça, c'est un accaparement des richesses et voilà, on est toujours sur ce même modèle contre lequel on se bat.
Voilà. Et ça, l'autre aspect qu'on n'a pas développé, c'est sur le bassin de l'Oise justement. Donc c'est l'idée d'aménager grand gabarit la rivière, l'Oise. Donc on va quoi, la creuser, on va l'élargir, on va quoi faire?
Alors le canal est... Il y a une partie déjà qui va remplacer le canal du Nord, qui est un canal existant qui a été fini dans les années 60, qui est sous-exploité économiquement parce qu'il n'y a pas l'intérêt économique de le faire, tout simplement. Et donc il y a une partie de ce canal du Nord qui va être modifiée, mais c'est plutôt un croisement qu'autre chose. Et puis après, du côté de l'Oise, près de Compiègne notamment, il y a une section de l'Oise, de la rivière, donc qui vont déplacer pour pouvoir passer le canal entre la colline et le village d'à côté. Il y a aussi également une partie de l'Oise, un bras de l'Oise qui va être rebouché parce que les 78 millions de déblais, faut bien les mettre quelque part. Mais c'est pas grave parce qu'ils nous le vendent comme une zone de compensation. C'est-à-dire que le concept, c'est on a un bras de l'Oise vivant, qui est pas navigué, qui voilà, avec sa biodiversité. Et donc, on va la reboucher avec des déblais et on en fait une zone humide de compensation dessus. Voilà, ça fait partie de ça. Après, plus au sud, quand le projet Mageo prendra sa place, là, effectivement, on a l'Oise qui traverse beaucoup de petites villes, qui fait beaucoup de méandres. Il est juste évident que des 185 mètres ne pourront pas passer dans ces méandres. Il va falloir labourer littéralement la vallée pour que le cours d'eau puisse passer.
C'est dingue, c'est dingue.
Oui, c'est dingue.
Et tu t'entendais tout à l'heure comparer ça, ces travaux au canal de Panama. C'est du même ordre de grandeur, hein ?
Oui, c'est un ordre de grandeur qu'on évoque souvent. Les 78 millions de mètres cubes, si les gens, ça peut les aider, c'est... Imaginez un cube qui ferait la hauteur de la tour Eiffel de côté, c'est encore plus grand. Et le seul élément de comparaison qu'on pourrait avoir, ça a été l'élargissement du canal de Panama il y a quelques années. À quelques kilomètres près, on est sur les mêmes quantités, enfin les mêmes dimensions, les mêmes quantités de matériaux déplacés. On n'est juste pas sur les mêmes quantités de fret déplacés par contre.
Oui, et j'entends dans ce que tu dis qu'on n'est même pas sûr de l'utilité, puisqu'il y a déjà des canaux qui sont en sous-exploitation dans le coin. Quel est l'argumentaire, je veux dire. Ça ressemble beaucoup, nous, on a un projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse, alors qu'il y a déjà une ligne de train existante, qui a un coût faramineux de 14 milliards, pour laquelle on fait payer maintenant tous les habitants une taxe supplémentaire, une taxe spéciale TSE, voilà. Donc, il y a beaucoup de points communs dans ces projets d'aménagement complètement grandiloquents, pharaoniques qui n'ont rien à voir avec les urgences écologiques du pays, quoi.
Tout à fait, il y a des grandes similitudes sur ces deux projets et sur leur inutilité. Là encore, sur les financements, il y a fort à parier que ce soit les locaux de la région qui se trouvent à financer le reste. Et on prône beaucoup au sein de notre collectif des solutions alternatives. On n'est pas des méchants écolos qui sont contre tout. Et d'ailleurs, on a même des bateliers qui sont avec nous. Parmi les alternatives possibles, clairement, tu parlais de la ligne existante. Nous, on a le canal du Nord existant. Et à l'époque, VNF, Voie Navigable de France, avait eu la présence d'esprit de prévoir l'emprise de terrain pour pouvoir doubler en largeur le canal du Nord existant. Éventuellement, si on veut le développer, une solution intéressante, puisque il y a l'emprise au sol et les travaux auraient beaucoup moins d'impact. Et dans les canaux du Nord, on parle beaucoup des systèmes boat truck où il y a plusieurs barges qui sont poussées par un bateau pousseur et auquel cas on n'a pas ces problèmes de longueur et de profondeur à développer. C'est une solution tout à fait valable et c'est une des alternatives qu'on propose. Et puis les Hauts-de-France, c'est aussi une terre historiquement agricole, mais aussi de transport. On a l'autoroute A1 par exemple, qui est l'autoroute la plus utilisée de France. On a beaucoup de voies ferroviaires. On démantèle le fret SNCF depuis des années, on pourrait promouvoir cette alternative-là. Et d'ailleurs, un parallèle qui peut être intéressant, c'est qu'il y a quelques années, à l'est de Paris, il y a la ligne Paris 3 Chaumont, dont ils ont électrifié une section qui, au kilomètre près, fait la même longueur que le canal Seine-Nord-Europe. Et là, travaux finis, donc pas en estimation, ça a coûté 50 millions d'euros. Je vous laisse évaluer avec les 8 milliards la quantité de voies ferrées qu'on pourrait électrifier en France plutôt que de démanteler le fret ferroviaire. Donc des alternatives, oui, on est dans le même cas de figure, on en a, et à qui ça profite? Je pense que ça profite beaucoup à nos amis du BTP, hein, on ne les salue pas, voilà.
Et alors, on en vient à la question sur la lutte, où est-ce que vous en êtes, de la mobilisation contre ce projet, qu'est-ce que vous envisagez comme type d'action, est-ce que vous avez des points d'appui locaux, politiques?
Oui, alors au niveau des appuis locaux et politiques, on a déjà quand même un collectif qui petit à petit grandit, ce qui n'est pas forcément compliqué dans une région très éparse au niveau de la population et qui a un vécu très résigné, mais le collectif en lui-même grandit. On commence à rejoindre des associations, à être rejoint par des associations, par des syndicats. Je pense également au niveau maire, on a des gens qui nous rejoignent également. Le collectif est historiquement né sur Compiègne au début des travaux, mais de l'autre côté sur Arras, on a des gens qui se mobilisent, qui font des réunions publiques. Ça grandit petit à petit. La semaine dernière, on a validé notre association au niveau de la parution au journal officiel. Donc là, on va pouvoir lancer les pourvois en justice. On a aussi les soulèvements de la terre qui sont derrière nous. On leur a déjà parlé du projet. C'est un projet qui leur semble énorme parce que ça coche toutes les cases d'un projet mortifère et à l'encontre de nos valeurs. Donc oui, petit à petit, la lutte grandit, il y a des actions qui grandissent. À l'instant même, avant que je vous parle, on était en train de parler avec des personnes qui sont concernées par le canal Braine-Augean à l'est de Paris, qui sont sur les mêmes thématiques, avec de l'extraction céréalière, des gravières, des sablières. Donc oui, il y a des choses qui s'organisent, il y a déjà eu des actions de type manifestation, de la communication qui ont été faites, et on va pas tarder à monter d'un cran au niveau mobilisation et être un peu plus sur des actions directes. Voilà, le mot n'est pas choisi de manière anodine.
Merci Loutre pour toutes ces précisions et puis bon courage pour ces luttes.
Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous voulez nous aider, si vous cherchez Méga Canal Non Merci sur votre moteur de recherche, vous trouverez notre site internet et la cagnotte si vous voulez nous aider pour le juridique. Merci encore de votre écoute.
Vous trouverez sur le site megacanal.org toute une documentation effectivement sur ce projet qui coche les cases de nombreux projets d'infrastructures actuels Il est écocidaire, va mobiliser des millions de mètres cubes d'eau, de l'eau pompée dans l'Oise et de l'eau stockée dans des méga-bassines, une destruction de la biodiversité qui suscite l'inquiétude du Conseil national de protection de la nature, une baisse illusoire du trafic routier, car ces projets sont systématiquement accompagnés d'un effet rebond sur les maux qu'ils prétendent combattre. Un projet qui ne profite pas à la société et menace des emplois à travers la création d'entrepôts de logistique, Amazon ou autres, dont on connaît l'effet destructeur. Par ailleurs, il entretient une illusion démocratique à travers des enquêtes publiques qui sont sans cesse dévoyées pour légitimer ces projets. Les questions essentielles sont éludées et quelles que soient les réponses faites à l'enquête publique, celle-ci débouche sur une déclaration d'utilité publique. De même, les avertissements d'autorité environnementale sont contournés par de pseudo-mesures de compensation qui ne sont que très rarement contrôlées et dont l'efficacité est plus que douteuse, même sur le papier. Enfin, on a entendu Loutre nous expliquer à quel point les prévisions de retombées économiques sont bidonnées, exagérées, dans le but de maintenir l'afflux d'argent public. Sur le plan écologique aussi, ces projets sont des gabegies qui ne servent qu'à promouvoir une écologie de façade, comme la publicité d'un certain marchand de meubles suédois qui promet désormais aux Parisiens intramuros de leur livrer leurs meubles par transport fluvial, car celui-ci émet moins de dioxyde de carbone au kilomètre, entre le dépôt et Paris. En attendant, le transport de marchandises ne cesse d'augmenter, à la fois globalement et pour chaque mode de transport. Les nouvelles infrastructures ajoutent leurs kilomètres aux anciens, mais ne les remplacent pas, car il faudrait pour cela une contrainte politique forte, un engagement que nos dirigeants n'ont pas le courage de prendre. C'est maintenant le moment de l'actu de la semaine, et sans conteste, l'actu de la semaine, c'est la victoire de Valérie Murat, militante anti-pesticides, responsable de l'association Alerte aux Toxiques, qui avait été condamnée le 21 février 2021 à payer 125 000 euros d'amende pour avoir révélé la composition des vins HVE et notamment les résidus de pesticides qu'ils contenaient. Ce dossier, nous l'avons traité déjà plusieurs fois dans Climat de lutte, mais cette fois-ci, c'est une première victoire depuis 4 ans qu'elle peut enregistrer, puisque jusque-là, elle était interdite de faire appel. Elle avait été radiée de cette possibilité de faire l'appel, et maintenant, elle a pu obtenir cette possibilité avec son avocat Maître Bouillet. Nous sommes allés la voir dès aujourd'hui pour avoir ses impressions.
Alors Valérie... Le bâillon vient de se desserrer.
Exactement, c'est ça.
Et tu souffles.
Oui, je reprends un peu ma respiration. Et puis, ça fait du bien de sentir que le bâillon se desserre un petit peu. On peut respirer un petit peu plus au sein de l'association parce que depuis 4 ans, ça a commencé à peser très lourd sur les activités de l'association et puis aussi sur notre vie dans l'assaut et au quotidien aussi.
Ouais. Vous étiez quasiment interdit, toi et ton association, de parole.
Oui.
Puisque toute prise de parole était assimilée à une contestation.
Exactement. Dès que je prenais la parole en public, les adversaires considéraient que je faisais la promotion de ce dossier interdit. Et ça devenait de plus en plus dangereux, si bien que depuis les 2 dernières années, les seules fois où j'ai pris la parole en public, c'était pour la remise du chèque le 23 octobre et puis pour une petite soirée qui a eu lieu à Sciences Po à Bordeaux pour le livre Enquête de Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prête également. C'est les 2 dernières fois
alors,
où j'avais parlé.
Pour remettre à nos auditeurs donc en mémoire tout ce dossier, donc tu as été condamné en février 2021,
oui.
Pour dénigrement, ce qui est une procédure très très particulière et c'était la première fois qu'elle était utilisée contre une association,
oui.
Puisque c'est une procédure généralement qui a lieu entre des établissements commerciaux ou ouais, à caractère lucratif en
exactement.
Tous les cas.
Exactement.
Et cette condamnation était à propos d'un dossier que tu avais fait sur les vins HVE où tu avais fait analyser des bouteilles de vin HVE, publier les résultats pour montrer qu'ils contenaient des résidus de pesticides comme les autres vins. Et à partir de là, cette condamnation a été d'un montant absolument ahurissant.
125 000 euros, la peine la plus lourde en Europe.
Voilà. Et qui plus est assorti d'une non-systématicité du droit d'appel, puisqu'il te faut faire une demande très particulière. L'appel n'est pas obligatoire. Le juge peut te refuser l'appel, surtout si les plaignants en font la demande, et c'est ce qu'ils ont fait deux fois. Ils ont fait une demande de radiation de l'appel.
Alors, elle a été acceptée par la cour d'appel la première fois, donc ça a été le 13 novembre 2021, au motif que nous n'avions pas réglé la totalité de cette somme de 125 000 euros. Et là, les adversaires avaient fait une deuxième demande de radiation, cette fois-ci donc au motif que la cagnotte que nous avions mise en place aurait été interdite et illégale. Et cette fois-ci, en revanche, la conseillère de la mise en état nous a donné raison. Elle a indiqué que nous avions exécuté toutes nos condamnations, que nous avions respecté toutes les interdictions et que ce financement participatif n'avait absolument pas troublé l'ordre public. Et à ce titre, elle a rejeté la demande de radiation des adversaires.
Ce qui veut dire, c'est encore pas une victoire, mais c'est le chemin vers la possible victoire, puisque jusque-là, tu devais te taire et seulement te taire. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir avoir ce procès en appel que tu attends depuis 4 ans.
Voilà. Et enfin, maintenant, nous allons pouvoir aborder le fond de ce dossier, ce que évitaient soigneusement nos adversaires depuis 4 ans. Ce qu'ils cherchaient à faire, c'était justement éviter de parler du fond de ce dossier. Et là, maintenant, il va falloir qu'ils produisent des conclusions sur le fond, chose qu'ils n'ont jamais faite jusqu'à maintenant. Donc la prochaine étape, c'est qu'ils ont 3 mois pour produire des conclusions sur le fond de ce dossier.
Voilà, d'accord. Donc dans 3 mois, ils produisent les conclusions. Ça ne veut pas dire que le procès en appel a lieu à ce moment-là ?
Non, pas forcément. Selon les conclusions qu'ils déposeront éventuellement, nous en referons de notre côté si ça s'avère nécessaire. Et une fois que les conclusions des deux parties auront été rendues, nous pourrons avoir une première date d'audience en appel.
C'est-à-dire que donc le CIVB et les 25 plaignants de ce procès, qui sont des châteaux, des organismes de gestion, vont devoir vivre ce qu'ils redoutaient tant, c'est-à-dire un débat sur le fond, un débat sur la réalité de ce vin HVE, qui, on le sait, c'est une opération de greenwashing, et ce label, puisqu'il n'empêche absolument pas d'utiliser des pesticides, et c'était ça qu'ils voulaient éviter.
Exactement. Ce qu'ils évitent, en fait, c'est de rendre public ce qui est pulvérisé sur les vignes pour produire ces fameux vins HVE. Et là, il va falloir qu'ils motivent donc leur décision d'avoir évité d'aller au fond, justement. Là, maintenant, il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ils avaient choisi le dénigrement, puisque là, on parle de produits, et pourquoi ils ne sont pas allés en diffamation. Et nous, ce que nous avions déjà demandé lors de notre premier appel, c'est une requalification, justement, de ce procès en diffamation et non en dénigrement.
Oui, alors là, il y a une nuance qui est peut-être difficile à saisir. Un procès en diffamation, la personne qui est accusée de diffamer, elle va pouvoir produire des arguments montrant qu'il y a un fondement scientifique, dans ton cas, à ce qu'elle a affirmé. Oui. Tandis que le procès en dénigrement se fiche complètement de la véracité des accusations et des critiques que tu avais faites au vin HVE.
Oui.
C'est autre chose qu'il s'agit. On juge seulement la perte commerciale, en fait, pour les plaignants.
Oui, absolument. En fait, le dénigrement s'intéresse, lui, au produit. C'est toute la différence. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que d'un côté, nos adversaires ont cherché dès le début à éviter le procès en diffamation, puisque nous avions à l'appui des analyses qui n'avaient jamais été contredites, produites par un laboratoire agréé. Et dans leur seconde demande de radiation, en revanche, ils se sont appuyés sur la loi de la liberté de la presse de 1881. Donc en fait, on voit bien qu'ils s'appuient sur cette loi quand ça les arrange. C'est ce que nous avons tenu à soulever, à montrer dans notre communiqué de presse hier.
Oui, c'est ce qu'avait aussi avancé Maître Bouillet.
Pendant sa plaidoirie brillante le 12 juin dernier devant la conseillère de la mise en état. Absolument. Oui.
Donc j'imagine que tu as quand même un poids absolument immense en moins sur les épaules, puisque tu as donc avancé 165 000 euros, une partie fournie effectivement par crowdfunding, mais pas seulement.
Exactement.
Tu as complètement changé de vie, toute ta vie a été monopolisée par le silence qu'on t'a imposé depuis 4 ans.
Oui.
C'est énorme.
C'est énorme, ça a été très dur. Les deux premières années ont été extrêmement difficiles. J'ai la chance d'être très bien entourée par ma famille proche. J'ai la chance d'avoir une grande famille de camarades militants et militantes qui nous ont beaucoup soutenus et qui continuent encore aujourd'hui à nous soutenir. Hier, dans les messages que j'ai reçus de soutien des militants, des militantes, des ONG, etc., et des amis et de ma famille, je disais à tout le monde que j'ai le sentiment d'avoir déposé un sac à dos de 60 kilos et que je peux enfin reprendre ma respiration et voir un peu de lumière au bout du tunnel.
Bon, et maintenant, tes projets, c'est
Reprendre un peu ma respiration. Il va falloir continuer la bataille. Ça va être...
Tu n'es toujours pas, en fait, complètement libérée de la menace.
Non, nous sommes toujours condamnés.
L'interdiction de parler.
Oui. Là, nous sommes toujours condamnés. Donc, je suis très prudente dans les termes que j'utilise pour ne pas donner, apporter de l'eau au moulin de nos adversaires. Il va falloir garder de la force et de l'énergie parce que c'est un combat qui va être encore long. Le temps judiciaire, c'est toujours un temps qui est très très long. Là, pour le moment, je profite, je savoure la décision qui a été rendue hier dans l'ordonnance de la conseillère de la mise en état. Et puis, je sais qu'il va falloir beaucoup, beaucoup travailler. Donc, je garde mon énergie pour la suite.
L'appel se déroulera à Bordeaux ?
Oui, l'appel se déroulera à Bordeaux, absolument. Oui.
Et c'est pas une situation défavorable a priori. En tous les cas, c'est moins défavorable que le tribunal de Libourne.
C'est une première victoire dans ce procès Bayon qui dure depuis 4 ans maintenant. Là, c'est une première victoire. Donc, ne boudons pas notre plaisir. Moi, je le savoure depuis que j'ai eu la décision hier. Je pense que ça va durer encore quelques jours, cette petite euphorie, hein, personnellement. Après, on se mettra au travail une fois que la décision aura été signifiée aux adversaires et puis qu'on aura reçu leur conclusion, qu'on attend avec impatience, hein, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais déposé de conclusion sur le fond. Donc moi, j'attends avec impatience de pouvoir les lire, d'en prendre connaissance.
Oui, c'est clair. Et la presse n'a pas sauté sur la nouvelle. Hier, on a attendu un peu longtemps un communiqué vague de Sud-Ouest. Il semble que et le CIVB n'a pas communiqué.
Alors,
à mon avis,
le CIVB ne souhaite pas communiquer. Moi, j'ai eu plusieurs journalistes hier soir qui m'ont effectivement confirmé que la partie adverse ne souhaite pas du tout s'exprimer sur la décision d'hier. On comprend aisément pourquoi. En revanche, ce qui m'étonne, ce sont des articles de Sud-Ouest parus avant-hier sur... c'est un article qui a été fait par Jean-Charles Galliassi et qui était très succinct et qui ne remettait pas du tout en situation cette demande, cette seconde demande de radiation. Donc je m'en suis étonnée auprès de lui. Il a fait un petit communiqué sur le site internet du média en question hier soir, qui reste quand même très très succinct encore et très laconique. Après, j'ai beaucoup regretté aussi l'article de rue 89 Bordeaux, qui est aussi très très partial, qui remet pas du tout en question, sachant qu'en plus ils n'étaient pas à l'audience du 12 juin, qu'ils ont visiblement pas pris connaissance non plus de l'ordonnance et qui se sont attachés à parler de cette cagnotte qui aurait été illégale, ce qui n'est donc pas le cas. Hein. Après, ils font le travail comme
après,
ils veulent.
Après, c'est indépendant. Voilà. Ceci dit, moi, je ne sais pas si tu as regardé les commentaires de l'article de Galliassi en bas, les commentaires des lecteurs. et qui rejoignent exactement ce que nous on entend sur les marchés par rapport les vignerons du Nord Gironde par exemple se font interpeller parce qu'ils font partie des plaignants dans les salons où on vend du vin, etc. Ils se font interpeller en disant mais vous n'avez pas autre chose à faire que de poursuivre des militants qui militent à juste titre contre les pesticides. Et là, le fait que donc ils ont déjà été critiqués pendant la procédure, mais maintenant ils vont la perdre, enfin tous les cas perdre l'aspect silence sur ce qui s'est passé. Je pense qu'ils vont regretter beaucoup.
Alors, je pense qu'ils sont déjà en train de regretter, effectivement. Et par rapport à ce que tu rapportais sur les vignerons dans les salons, beaucoup d'entre eux m'ont rapporté les mêmes faits. Et même l'un d'entre eux a été sur un salon, je ne sais plus sur quelle ville, et on lui a interdit. Il est arrivé avec le polo Bordeaux-CIVB. Et on lui a interdit l'accès au salon. Et c'était un salon en bio, et c'est un vigneron en bio. Et on lui a dit, toi, avec tes vins, tu repars. Alors que c'est pourtant un vigneron qui est acquis à notre cause, qui produit des vins respectueux de la santé et de l'environnement. Et il n'a pas cherché à batailler parce que c'était vraiment un refus ferme et définitif qu'on lui opposait. Donc ça signifie quelque chose tout ça aussi. Et il va falloir, à un moment donné, que tous les vignerons, les professionnels des vins de Bordeaux qui cotisent obligatoirement et volontairement au CIVB, peut-être falloir aussi sortir de ce cette allégeance qu'ils vouent au CIVB, parce que tout ça se passe avec leur argent. C'est leur argent.
Et cela vient s'ajouter à un autre dossier qui est la faillite actuelle des vins de Bordeaux, la mévente des vins de Bordeaux, pour laquelle le CIVB a de grandes responsabilités puisqu'il a pendant des années poussé à la plantation, à la plantation, et que maintenant il y a une surproduction terrible dans la région.
Ce sont les mêmes qui ont poussé à planter pendant des années, qui aujourd'hui disent que la seule solution, c'est un arrachage et en plus au rabais. C'est quand même très difficile de dire à des professionnels vous allez détruire votre outil de travail après les avoir incités pendant plusieurs dizaines d'années à planter et à inonder le marché avec les vins de Bordeaux. Il va falloir aussi réfléchir à ces pratiques-là en tant que professionnel.
On va essayer de faire en sorte que ce soit aussi le procès du CIVB et de toute l'omerta qu'il fait régner dans la région et la façon dont il, justement,
pratique de plus en plus puissante pour faire taire celles et ceux qui s'engagent. C'était aussi, ce procès Bayon, un message pour toutes celles et ceux qui militent aujourd'hui et depuis largement 10 ans dans le Bordelais. Attention, voyez les moyens que nous utilisons contre Alerte Toxique et sa porte-parole. Si jamais il vous venait l'idée de prendre le même chemin et de vous engager pour montrer l'écart entre les belles paroles et la réalité des pratiques. Regardez de quoi nous sommes capables, regardez la puissance financière dont nous bénéficions. Attention, c'était aussi un message envers toutes ces personnes. Absolument, absolument.
Et d'ailleurs, nous sommes elles sont de moins en moins nombreuses.
Et elles sont de moins en moins nombreuses, absolument. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Seule la lutte paie, comme dit notre camarade Myriam. Seule la lutte paie.
Merci Valérie.
Merci Sylvie. Merci La Clé des Ondes.
Voilà, c'est sur ces notes de la joyeuse fanfare du village de l'eau du mois de juillet cet été dans les Deux-Sèvres que nous finissons cette émission. Vous pouvez la retrouver, la podcaster sur le site laclédesondes.fr. Vous pouvez aussi dans l'article joint à cette émission retrouver tous les liens que nous avons cités. À la semaine prochaine !